Ce sont les deux dernières du livre de chemin qui va écrire le quotidien. Et qui traite de la fin des dettes et des prescriptions concernant la construction du tabernacle. Et vous souvenez, ceux qui étaient là il y a quelques semaines, qu'au moment de la paracha de Trouma, nous avons étudié cette question. Alors, d'autre part, comme c'est le Shabbat qui précède la semaine où il y a le Rosh Chodesh Nissan, c'est un Shabbat particulier. Nous en avons déjà eu dans le mois de Hadar, vous vous rappelez. Et ce Shabbat, c'est le Shabbat Para. Alors, on ajoute au Mashtim les premiers chapitres de la paracha de Chukat qui se trouve dans le livre de Bemidbar. Alors, c'est la raison pour laquelle nous allons étudier le thème de ce Mashtim. Je vais vous expliquer immédiatement pourquoi on a institué cette prescription particulière du Shabbat Para. Et donc, je rappelle, dans la semaine qui précède le Rosh Chodesh Nissan, dans la semaine où se trouve le Rosh Chodesh Nissan, alors on lit la paracha de le début de la paracha de Chukat, qui s'appelle Shabbat Para, et ce sont les prescriptions qui devaient assurer la purification, en particulier la purification des Kohanim, mais d'une façon générale, la purification de quiconque était atteint d'impureté, et par conséquent, puisqu'il était atteint d'impureté, était inapte à la Kedusha, à toute relation à la sainteté, en particulier au culte dans le temple. Et donc, étant donné qu'on se prépare à partir de Pessah, au sacrifice de Pessah, je parle autant effectivement où le temple existait, alors l'enseignement qui était donné avant le commencement du mois de Nissan était de rappeler les prescriptions concernant la purification dans le cas où une impureté avait été contractée. C'est la raison de base essentielle. Nous allons l'étudier assez rapidement et voir en deuxième point comment c'est relié à la sortie de l'Égypte elle-même qui se prépare à partir du commencement du mois de Nissan. J'étudierai le thème suivant, sous forme de comparaison, si vous voulez, mais c'est plus une comparaison. La sortie d'Égypte est aussi la sortie de l'impureté dans laquelle Israël se trouvait en Égypte et la préparation au temps d'Israël qui commencera avec le jour le soir de la sortie d'Égypte elle-même et qui commence donc avec le temps de Nissan. Et ensuite, si nous résultons, j'espère peut-être, nous aurons un thème analogue est directement relié au verset que nous avons étudié dans la paracha de Chukat, dans le Talmud. Alors, je commence alors par lire les principaux versets de cette paracha. Nous étudierons un des thèmes posés par le verset. Et en deuxième partie, donc, j'essaierai de l'éclairer, de l'illustrer plus exactement par l'enseignement du Talmud sur un sujet très, très analogue. Je vais expliquer. Alors, prenez donc, c'est au chapitre 19, et dans ce livre, vous l'avez à la page 91. Je crois que. Bon, regardez la chaîne déconchée, voyez la Rome, les mots. Donc, c'est un commandement qui va être donné simultanément à Moïse et à Aaron. Ce fait même pose un problème pour lui-même, nous avons eu l'occasion d'étudier une fois. Enfin, je vous signale en passant, il y a certaines mesures où le commandement est transmis à travers Moïse et Aaron ensemble, dans cet ordre, Moïse et Aaron, d'autres dans l'ordre Aaron et Moïse. Et puis, la majorité des mesures, c'est à travers Moïse. L'étude du Talmud à ce sujet établit qu'en réalité, toutes les mesures sont données à travers Moïse et Aaron à la fois. On l'apprend en particulier de chaque contexte, il y a un verset de ce type, et d'abord à ce moment, c'est Vé et Aaron, et pas seulement Régadère Hachem et Moshe. Parfois, comme je viens de le dire, il y a Régadère Moshe et Régadère Hachem et Aaron ou Moshe. Pour montrer qu'il y a équivalence entre Moïse et Aaron. Cependant, lorsque la Torah est transmise à travers Moïse, elle a un objectif que nous avons défini une fois dans une étude, qui est l'objectif du Tikkun HaOlam, c'est-à-dire de la restauration de l'ordre du monde. Lorsqu'elle est transmise, cette même Torah, à travers Aaron, elle a une dominante différente, elle a l'objectif de l'accaparat, c'est-à-dire de la restauration dans le sens d'expiation d'une faute qui entretient avec le fait. Je reprends très brièvement parce que c'est pas le sujet ce soir, c'est deux perspectives, Torah Moshe et Torah Aaron, c'est la même Torah. Mais Torah Moshe, c'est a priori de la faute, et Torah Aaron serait a priori de la faute. C'est-à-dire, avant même qu'aucune éventualité de faute ne soit envisagée, il y a un ordre du monde à rétablir. L'achèvement de la mise au point du chaos originel au point où chaque génération le reçoit. Et pendant ce métier d'homme, mais qui devient très rapidement un métier d'hébreu et finalement un métier juif, des fautes peuvent être faites. Alors, une deuxième dimension apparaît, le fait de restaurer la situation d'avant la faute pour pouvoir être disponible pour le service de la restauration tout court. Est-ce que c'est suffisamment sûr pour être clair, bien que rapide. C'est-à-dire qu'il y a les deux objectifs, nous sont donnés simultanément dans la même Torah, mais nous nommons la Torah Torah Moshe pour ne pas oublier que l'accent est mis non pas sur la réparation des fautes, mais sur la réparation du monde. Et dans ce métier de réparateur du monde, si j'ose dire, ça peut être comme ça d'ailleurs en français, ça je traduis le peu, il peut y avoir des fautes de métier. Alors, si on est en train de mettre au point un moteur, et que pendant qu'on est en train de mettre au point le moteur, alors on casse une vis, je ne sais pas quoi, et il faut arranger la vis avant de continuer à mettre au point le moteur. Vous avez compris l'image, je vous ai évidemment repris. Là, nous allons voir qu'il était nécessaire de rappeler le nom de Aaron, parce que c'est effectivement un problème clé concernant la possibilité d'être disponible pour ce métier de réparation du monde dans le même temps. Retenez le terme en hébreu, c'est beaucoup plus clair. Tikkun HaOlam, c'est-à-dire la restauration de l'ordre idéal du monde, la restauration du projet du Créateur pour le monde. Et à chaque étape de l'histoire du monde, il y a une exigence de progrès la réalisation de ce projet, mais il peut y avoir, étant donné le stade de mérite ou d'identité où se trouve l'homme qui est occupé à cette réalisation, il peut y avoir régression dans ce progrès même. Il faut donc réparer la régression avant d'être au niveau qui nous rend de nouveau disponible pour continuer la progression. Voilà, c'est la même chose que j'ai dit d'une autre manière, mais je pense que c'est suffisamment clair. Et nous verrons que la paracha que nous avons étudiée se remet centralement à ce sujet-là. Alors, regardez la semaine, Moshe et Aaron et Mor, nous ne verrons pas sur ce verset. Zot Chukat HaTorah. C'est l'expression la plus importante peut-être comme introduction à ce qui va nous être dit. Il va s'agir du problème des cendres de la vache russe qui permettent de prendre le bain de purification de l'impureté. Vous êtes déjà familier à cette expression. Pour ceux qui ne savent pas encore, je vais expliquer plus. Ces eaux qu'on appelle dans le terme technique les eaux lustrales. Ça c'est du français. Les eaux qui permettaient le bain de purification, on devait y mettre et descendre d'une vache complètement pure, parfaite en couleur et en constitution, auquel on ajoutait une certaine catégorie d'herbes, et le végétal et l'animal. C'est pourquoi on a l'habitude de dire en français la vache pousse. Je me souviens d'une petite anecdote que j'aimerais bien vous raconter. Première fois que nous sommes arrivés de me rappeler en France, et qu'on a mis des maîtres Ashkenaz, la prononciation était encore l'ancienne prononciation Ashkenaz. Alors, je me souviens que j'avais un chaver qui, pendant des mois et des mois, croyait que la vache rousse, c'était un mot hébreu, comme la vache rousse, la vache pousse. des choses qui s'étaient passées à la première promotion. Des choses qui vous regardez dans le folklore. Bien. Alors voici comment commence le deuxième verset. Zot Chukat HaTorah. Voici le principe de la Torah. Je traduis d'abord le mot de Chukat par principe, pour indiquer le fait que cette loi particulière de la Parah Aduma, telle que je viens d'expliquer, et nous reviendrons sur l'explication, est un principe fondamental de toute la Torah. Ça devient expression Zot Chukat HaTorah. Voici le principe de statut avec T, de loi de la Torah. Alors, le mot de chouka lui-même signifie une loi qui est imposée, proposée, imposée, en dehors de toute recherche de signification. C'est le sens habituel que vous aurez dans les dictionnaires et chez les commentateurs immédiats du terme de chouka. L'exemple que j'emploie toujours pour essayer d'éclaircir cette notion, j'en donnerai peut-être deux. D'abord un exemple dans le langage juridique. Vous avez une constitution, une législation, au nom de laquelle l'appareil juridique va donner ses jugements, va rendre des jugements. Alors le jugement s'appelle le mishpat, et la constitution au nom de laquelle le juge doit juger, la constitution donnée par le législateur s'appelle la chouka. Même en hébreu moderne, on a repris un peu ce vocabulaire. La chouka, c'est le code, et le mishpat, c'est la jurisprudence qui est déduite ou induite parfois du code. Okay? Par conséquent, il y a certaines mesures qu'on appellera des mishpatim, ce sont les conséquences de l'application d'un principe de la Torah à une situation donnée, et des mesures qu'on appelle des chukim, ou au féminin des chukot, et qui sont ces principes-là au nom desquels on donne les mishpatim. Nous avons appris dans notre cours, mais sans m'égariser un peu avec ce vocabulaire, l'ensemble des mitzvot se divise en différentes catégories, et en particulier ces mitzvot qui ont la forme et l'aspect et le contenu d'un principe sine qua non de la Torah s'appellent les chukot. Par exemple, on arrivera dans une des sidrot dans quelques temps, la sidra de Bechukotai, vous rappellerez de ce verset, In Bechukotai Tishmeru. Si vous observez mes chukot, ça veut dire non seulement l'application des données de la Torah dans le détail, mais les principes de cette Torah qui font que les mitzvot de détail sont ce qu'elles sont. C'est-à-dire l'intention profonde de la Torah est formulée au niveau des chukim et des chukot. Voilà le premier sens très général. J'espère que c'est suffisamment clair jusque-là. Alors, très rapidement, en se basant d'ailleurs sur des midrashim authentiques, non interprétés, on a pris l'habitude de dire chouka. C'est une loi qui n'a pas de signification, alors que Mishpat, c'est une loi qui aurait une signification. Là, je vais un peu corriger cela. Et nous aurons l'occasion d'étudier le commentaire de Rashi aussi, qui se base d'ailleurs sur un dessin de Rashi, pour un peu démystifier ce problème, un peu le nuancer, si j'ose dire. Toutes les mitzvot de la Torah ont un sens, mais il est plus ou moins accessible. Et en particulier, à propos de la Parah Adouma, le Midrash dit, seul Moshe Rabbeinu en avait la signification. C'est pourquoi vous verrez que tout de suite, dans la suite du verset, la parole d'Uma va être nommée du nom de Moïse. Je le préciserai tout à l'heure. Et le Midrash continue que même le roi Salomon, qui avait la plus grande sagesse après Moshe Rabbeinu, le roi Salomon a essayé de comprendre cette chouka et il ne l'a pas compris. Et c'est là qu'il a dit Rechouka mi. Comment verser ? Bon, je ne vais pas vous dire un verset faux. Il dit un verset, il dit « Ta Torah est très profonde, elle est loin de moi. » Loin de moi, dit le Midrash, loin de moi, c'est la parole de moi que vous arrivez à comprendre. Peut-être nous aurons encore l'occasion de revenir sur ce point. Peut-être que vous allez dire que Moshe comprend cela, peut le comprendre, mais que Salomon ne peut pas le comprendre. Et alors, voilà, vous avez cette première proposition. Une chouka, ça veut dire une loi qu'on n'a pas discutée, qui est donnée comme discipline pure et simple, Gezeira, c'est pour faire en hébreu, et qui n'aurait pas de signification. Alors, la deuxième formule que je substitue à la première est bien qu'à peine une nuance est très différente. Donc, toutes les lois de la Torah sont à la fois des Gezeira et ont leur signification. Mais, suivant les niveaux, et en particulier au niveau le plus grand, cette loi ici, sur le rapport à l'Alouma, c'est une chouka dont la signification est inaccessible. C'est bien clair. Bon. Le deuxième exemple que je donnerai, le premier était dans le langage juridique, je prendrai dans le langage mathématique. Il y avait par exemple en mathématiques des axiomes et des théorèmes. Des axiomes sont des principes qui sont la base même de toute la pensée mathématique et desquels on déduit ou on induit des théorèmes. Même en changeant de vocabulaire, comprenez un peu l'image. Par exemple, le principe d'identité, en logique générale, eh bien, c'est une chouka. La raison ne peut pas fonctionner si elle ne fonctionne pas d'après le principe d'identité. Bon. Et du principe d'identité découle un certain nombre de principes logiques qui en sont des conséquences. Alors, à un certain niveau, le principe d'identité, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Toute chose est égale à elle-même et n'est pas une autre chose. si vous voulez, la formule classique, c'est A égale A. Et le président pouvait se faire la hookah de la logique, et puis telle ou telle règle de syllogisme, telle ou telle règle de raisonnement, on serait des mishpatim. C'est très différent. Alors, depuis que j'ai commencé, d'ailleurs, avec ce maître duquel on entendait la vache rousse comme il m'a caché, à étudier ce sujet, c'est toujours ce même exemple qui me revient à l'esprit. Il montre que nous manions dans notre raisonnement logique des principes qui ont une grande importance, dont on pressent qu'il y a une signification très profonde, mais on n'arrive pas à pressentir que le fonctionnement du monde est basé là-dessus. Par exemple, un principe qui m'a beaucoup frappé en mathématiques, c'est le produit des extrêmes et des moyens est égal. Vous connaissez ces choses-là. Je ne sais pas en quelle classe de lycée on apprend ça, j'étais déjà en enfantiste. Et alors, le produit, quand vous avez deux fractions, okay, le produit des extrêmes et des moyens est égal. Or, il n'y a rien de plus différent que des extrêmes et des moyens, mais le produit des extrêmes et des moyens est égal. Okay. Alors, nous avons trouvé, en mathématiques, c'est extrêmement fécond comme principe. Mais si on arrive à pressentir, à comprendre la signification, je ne disais pas philosophie, je vous rappelais hier soir, mais profonde, de ce principe, alors on s'aperçoit que c'est un des principes sur lesquels le fonctionnement du monde repose. Je pense que c'est suffisamment éclairant, en tout cas. Eh bien, ici, nous avons donc une mitzvah particulière apparemment, mais qui est appelée par la Torah la chouka de la Torah tout entière, les autres chouka de la Torah. On peut aussi lire de façon beaucoup plus concise. Voici le principe de cette Torah particulière, cette mitzvah particulière. Parce que aussi dans le langage du mitzvah et dans le langage de la tradition, chaque mitzvah est appelée une Torah. Par exemple, ceux qui ont fréquenté un peu l'étude de la chassidut savent que chaque Dvar Torah pour la chassidut s'appelle une Torah. Je ne sais pas d'où vient exactement cette expression, mais je sais qu'elle est très répandue. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on peut lire comme ça, Zot Chukat HaTorah, voici le principe de cette Torah qui concerne la Parabima, la vache rousse en particulier. Mais en général, les premières sources ont toujours lu cette expression Zot Chukat HaTorah, cette mitzvah de la Parabima, c'est la Chukat de toute la Torah. C'est très important. Bon. Alors je continue. Zot Chukat HaTorah, Asher Tiva Hashem Lemo. Voici quelle est la Chukat de la Torah, je traduis maintenant, c'est nécessaire, que Dieu a ordonné en disant. Je reprends, Zot Chukat HaTorah, Asher Tiva Hashem Lemo. Et on pourrait se poser la question que Dieu a ordonné en disant, est-ce que ça va à la Parabima, à la Chouka ou à la Torah? Vous avez compris? Je relis des deux manières. Zot Chukat HaTorah, Asher Tiva Hashem Lemo. Voici la Chouka de la Torah que Dieu a ordonné en disant. Il vient de lire, voici la Chouka de la Torah que Dieu a ordonné en disant. Vous avez compris la différence. D'après les termes, on va chercher quand même la deuxième lecture qui est immédiate. Voici la chouka de la Torah que Dieu a ordonné en vie. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous citer un commentaire extrêmement profond du Ora Haïm qui dit ceci, que dans toute mitzvah, il y a un aspect de chouka, c'est-à-dire un aspect de chouka dans le premier sens, un aspect de indiscutable. Je veux dire que arrivé là, il n'y a plus de place pour chercher à comprendre pourquoi, là il y a quelque chose de l'ordre du mystère. Et vous savez à quel point il faut éviter d'employer le terme de mystère lorsqu'on parle de la Torah. Le mot de mystère, je vous l'ai dit souvent, n'est pas du tout un mot du vocabulaire hébraïque, c'est un mot du vocabulaire grec. Et en hébreu, enfin dans la tradition hébraïque, on a plutôt l'habitude de parler de sitre Torah, de secret de la Torah, que de mystère de la Torah. Je rappelle très brièvement la différence. Un mystère, c'est une connaissance qu'on n'a pas et qu'on perçoit comme étant comme on peut, que telle qu'on ne peut pas l'avoir, par définition. Tandis qu'un secret, c'est une connaissance qu'on n'a pas, mais qu'on peut avoir. On n'a pas provisoirement parce qu'elle est secrète. Mais le seul fait de savoir qu'il y a un secret, c'est une invitation à le comprendre. Tandis qu'un mystère, l'invitation est justement l'inverse. Alors vous voyez, dans les religions mythiques, c'est plein de mystères, c'est des religions en mystère, comme on dit. Tandis que dans le vocabulaire traditionnel, on n'a jamais eu cette catégorie-là. On a toujours eu la catégorie des sitre Torah, les choses cachées de la Torah. Mais quand on sait qu'il y a une chose cachée, c'est une invitation à la découvrir. Je pense que c'est ça. Je vais vous donner énormément d'exemples dans les commentaires traditionnels. Je vous donnerai clairement que je parle de cela, je crois que c'est important. Dès le début du commentaire de Nachmanide sur la Torah, dès les premiers versets, Nachmanides cite Rashi, cite les sources de Rashi, les explique, et en disant, elle ne croit pas que c'est compris, parce que ce dont je te parle, c'est un mystère profond, et ceux qui le savent doivent le taire. Un mystère doit se taire. Et tout de suite, quand on parle de l'intérieur de Nachmani, je demande qu'est-ce qu'il dit. S'il parle d'un mystère, il ne doit pas dire un secret profond, et ceux qui le savent doivent le taire. Alors lui, ici, il y a quelque chose à comprendre, parce que quand on a un secret, on ne doit pas dire qu'on a un secret. Parce que dès qu'on dit qu'on a un secret, le secret est dévoilé. Il est commencé à être dévoilé. Alors, de la formule même qu'on voit d'Armanide, on apprend que les secrets, c'est pour être découvert. Mais il y a des conditions, il y a des précautions, il y a des tnaïs. Okay? Mais si quelqu'un, vous étudiez un commentaire traditionnel, et très très souvent, ça vous arrivera, les formulations changent un peu à travers les siècles, mais c'est la même idée. Par exemple, je prends les formules habituelles du Maharal. Il donne une explication. Il faut quelques heures avant d'arriver à lire chaque ligne. Bon, on a fini par lire, par comprendre. Et il finit en disant, et tout ceci est très clair, comprends le bien. Alors on sait très bien qu'on n'a pas compris, je vais recommencer. C'est-à-dire des formules qui indiquent qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on arrive à comprendre. C'est un peu pour donner cette image, comme si quelqu'un voulait vous dire, vous voulez voir qu'il n'y a rien ici. Et là, je vais mettre quelque chose et je vais l'enlever. Vous voyez bien qu'il n'y a rien. Hein? Alors il s'agit de savoir ce qu'on a enlevé. Pardon ? Explique que le guide est dégaré, il faut le dire comme ça. Bon. Ben, ce qui était à l'égard de ça, vous avez dit, vous rentrez dans la continuité. D'ailleurs, je ne sais plus ce qu'il disait, ça aboutit à l'égarement des guides. Bien. Alors, je reviens au problème. Ceci veut dire que rien ne remplace l'étude sur texte, bien entendu. Alors, le Ora Haïm que je vous cite dit ceci qui est très important, qui m'a beaucoup frappé. Et dans toute l'univers de la Torah, il y a un aspect étrange. Le fait que la Torah insiste systématiquement, il doit y avoir une raison, mais finalement c'est devenu un article de foi. D'ailleurs, Maïmoud, il en parle pas, dit que c'est un article de foi. On a perdu les moyens de le percevoir. Je veux dire, c'est le fait que la Torah s'adresse à Israël. C'est le fait que systématiquement la Torah dit d'Aber et Bene Israël. C'est un thème qui a été aussi par la Chassidoute beaucoup, beaucoup repris. Alors voilà comment il lit le verset. Zot Hukat Torah. Voici le côté Hukka de toute la Torah. C'est Asher Tiva, Asher Memor, d'Aber et Bene Israël. C'est le fait que Dieu a ordonné en disant par les enfants d'Israël. Cette chose-là, que ça s'adresse aux enfants d'Israël, ça c'est le secret de la Torah. J'ai compris le problème. Bon, je vais revenir au chat. Le Ora Chaim, Rabbi Chaim Ben Azar, nous sommes là. Et là, il y a un aspect, si vous voulez, qu'on ne peut pas discuter, je cherche encore un mot plus précis. Il y a un aspect devant lequel on est démuni lorsqu'on cherche la signification. Mais il dit très clairement dans la deuxième partie du livre des Égarés, le fait que Dieu ait donné la Torah à Moïse et à Israël, ceci, c'est une décision de la volonté, ils n'auront pas à chercher à comprendre. C'est comme ça que Maïmonide l'a dit. Ça ne veut pas dire qu'on ne comprend pas. Mais ça veut dire que c'est quelque chose qui est contesté, et nous allons voir comment Rashi l'a dit, qui est contesté de toutes les manières. Au fond, dans le vocabulaire très contemporain, ça veut dire qu'on conteste cette soi-disant prétention à l'élection d'Israël, que quand Dieu parle, c'est Dieu parle à Israël. Et d'après la formule que je dis, que j'emploie très souvent, une formule que j'ai empruntée à la télévision, l'émission de la Torah, elle est en direct, en hébreu pour Israël. Pour les autres, c'est en différé. Et ça, c'est un fait. Et on est bien obligé d'en prendre acte. Et c'est un fait qui apparaît comme étant Ruka, Gzera. Dieu a décidé que, en réalité, et je ne vais pas prendre trop de temps pour ça, depuis le commencement de l'histoire d'Abraham, on s'aperçoit que c'est plein de raisons pourquoi Dieu a choisi Israël. Mais le fait brut apparaît comme cela. Donc, alors, je fais une petite parenthèse qui était important, et je reprends le chat. Zotru Kazatora Shetira Shememo, Daber Ben Israël, parle aux enfants d'Israël, Veikru Elecha, et ils prendront à toi, pour toi, vers toi, para aduma, une vache rousse, tmima. Tmima, ça veut dire entièrement rousse, sans aucun poil d'une autre couleur. Asherenba moum, qui n'a pas de défaut. Il y a une discussion dans le Midrash, est-ce que tmima, ça pourrait vouloir dire qu'il n'a pas de défaut. Tamim, ça veut dire intégral, intègre. Et un autre mot que vous en utilisez, en français peut-être. Parfait, tiens. Puisqu'on dit Hachem Ben Bamour, il n'aura pas de défaut, c'est ça qui veut dire qu'il n'aura pas de défaut. Et donc, c'est une image, c'est pour la couleur. Hachem, non, ala, aleha, ol. Sur laquelle il n'est jamais monté le joug. Ça veut dire qu'il n'a jamais servi à autre chose qu'à être consacré à ce à quoi on va la consacrer. Vous tentez monta l'el-azara kohen, et vous la donnerez. Je reviens un peu en arrière, vous rappelez que nous avons là la même formule que nous avons étudiée à propos de la paracha de Trouma. C'est-à-dire, parle aux enfants d'Israël, et c'est à toi de savoir ce qu'il faut dire pour que le résultat soit que, et ils prendront pour toi. Vous vous rappelez? Et c'est pourquoi d'ailleurs c'est la racine de ce fait que la vache rousse est nommée du nom de Moïse. Et on verra plus tout à l'heure par l'étude du problème de la sortie de l'impatrie d'Égypte ce que ceci. Vous tentez monta Eleazar à Cohen et vous la donnerez à Eleazar le prêtre, qui était le fils de Aaron. Mais au-dessus est à Mirchus la Mahamel, il la fera sortir en dehors du camp, mais Shahatota le Fanav, et il la sacrifiera devant lui. Voilà qu'à Eleazar à Cohen, Midana de Tzvao, et Eleazar le prêtre prendra de son sang avec son doigt, et Israël Nocha Fenoël Moed, et aspergera le devant de la tente du tabernacle, Midama, par son sang, de son sang, chez Abraham, cette fois. Ensuite, c'est un verset important, le Sarat est apparu à l'Aïnav, et il brûlera cette vache à ses yeux, et ça sera devant lui, et aura avec Bessara, avec Dama, Al-Pircha, Israël. Et sa peau, sa chair et son sang, c'est comment on peut traduire ça, Al-Pircha hein? Non. Oui. Non, c'est ce qu'il y a dans les intestins. Non, mais bon, vous avez compris. Mais sur un gage en français moins comme ça. Il faut faire dire quelque chose. Oui. Non, mais c'est pas exactement. Non. Il faudrait un médecin pour savoir le mot exact. Enfin, un physiologiste. Non. C'est ce qui se trouve. C'est ce qui se trouve dans les intestins au moment où la bête est morte. Et pas dans la panse, dans les intestins. Et ça veut dire qu'elle sera brûlée tout entière dans toutes ces catégories d'êtres. Donc, j'ajoute encore, Velakara Kohen, Aes Erez, et le Kohen prendra un bois de Erez, ça veut dire. Cèdre, Rezo, ça veut dire Lizot, Ushni Telahat. C'est un verre qui s'appelle, je vous dis comment il s'appelle en français, c'est un verre doux, un tiré, un verre à soie, non, un verre doux, une fois séché, la poudre donnait la couleur écarlate. Le cochni, d'accord. Alors cet écarlate, c'est le cramoisi, mais ça et Thor se réfata para, et il jettera donc une sorte de délégation de tous les règnes vivants ensemble, et tout cela sera jeté dans le brûlement de la vache, comme traduit André Souraki, enfin la vache en train de brûler. Les fibes, jusque-là, ça veut dire on va préparer ces cendres-là. Les fibes de Radava Kohen, et le Kohen lavera ses vêtements, les rachats de Saro Bamaïm, et cela littéralement lavera sa chair dans l'eau, ça veut dire prendra le bain de purification, et après seulement le Kohen rentrera dans le camp, et le Kohen sera impur jusqu'au soir. Et de même que va se refeta, celui qui a brûlé la vache en question, le Fabès de Radha Bamaïn lavera ses vêtements dans l'eau, le Rachal de Saro Bamaïn lavera sa chair dans l'eau, le Tamé Adaharev, et sera impur jusqu'au soir. Je continue encore. Véasa, fiche Taro, et un homme pur, ça veut dire ceux qui se sont occupés de préparer les cendres de la vache rousse, qui ont pour objet de rendre pur ce qui était impur, ceux-là même deviennent impurs. Je reprends la formule parce que là nous arrivons à l'action de l'extrême et des moyens. Ça veut dire, c'est un Kohen qui était en état de pureté, qui est chargé de préparer les cendres, qui seront ces cendres de l'eau qui va être le bain de purification pour quiconque était en état d'impureté. Mais en préparant cela, c'est-à-dire la capacité de purifier l'impureté, il sera impur. Et donc, son cas est que il faudra qu'il se purifie et il restera dans l'état d'impureté jusqu'à la fin de la journée, jusqu'au soir. C'est là-dessus que je reprendrai un exposé du Talmud sur un sujet parallèle. Et à ce moment, verset 9, Léas affiche Tahor et Tefer à Parah, et un homme pur rassemblera la cendre de la vache, et ni à Rikout le Mahané, la placera en dehors du camp, de Makom Tahor, dans un endroit pur, où il n'y aura eu aucune impureté de contracter, Vaïta le Hadat Bene Israël, et elle sera pour l'assemblée des enfants d'Israël, cette cendre, le Mishmeret, elle sera quelque chose que l'on garde, Mishmeret, une chose gardée. Il y a un mot en français pour décrire une chose. Réserve, très bien. Le Menida pour les eaux, l'Israël que vous avez appelé, les eaux de purification, Hatavri, c'est un sacrifice d'expiation. Donc, et voilà donc le thème. Et je vais un peu formuler le principe général de cette question. Il y a a priori une impossibilité d'accéder à l'état de pureté. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir accéder à l'état de pureté, il faut le faire par l'intermédiaire de quelqu'un qui serait déjà pur. Or, il s'agit d'accéder de l'état d'impureté à l'état de pureté. Et s'il n'y a pas cette traite exceptionnelle qui soit à l'état de pureté pendant que le monde entier est à l'état d'impureté, jamais du monde entier, de quelque part que ce soit, on trouvera le commencement du passage à la pureté. Je me suis mal expliqué, mais je crois que c'est clair. Je recommence. Ça veut dire, voilà. Je prends déjà un deuxième thème pour expliquer le premier. C'est que le principe de l'impureté, c'est le contact avec la mort. Or, l'accès à la sainteté n'est pas possible si on est en état d'impureté. Ça veut dire, tant qu'il y a la mort dans le monde, il ne peut pas y avoir de sainteté. Par conséquent, ça voudrait dire à la limite que la Torah est impraticable pour les hommes tant que nous sommes dans Olam Hazeh où, grâce à Dieu, il y a la naissance, on est, mais Dieu préserve, on meurt. Or, comme nous sommes dans un monde où il y a la mort, ça voudrait dire que la Torah est impraticable. Vous avez compris cela? Par conséquent, la Torah ne peut être praticable que par quelqu'un qui n'est pas de l'ordre de cette impureté, que grâce à quelqu'un, par l'entremise de quelqu'un qui n'est pas de l'ordre de cette impureté, mais qui va avoir ce privilège, cette capacité, cette prérogative de pouvoir transformer l'impur en pur, résultat, lui se transforme de pur en impur. Vous avez compris le thème? Et nous allons retrouver ça dans la personnalité de Moïse. C'est pourquoi la parole d'Ouma est toujours appelée du nom de Moïse. Seul Moïse est capable de faire que la Torah soit reçue par les hommes. Et vous allez me dire, qu'est-ce que c'est cette idée que Moïse, qui était pur, a rendu pur les impurs, les Hébreux étaient impurs, et lui devient impur. Mais vous savez qu'il y a au moins un midrash qui éclaire cela, et je vais vous raconter de nouveau. Et vous avez vu que tant que le temps de l'impureté n'est pas passé, de rester en dehors du camp, ça doit vous évoquer des associations d'idées avec des perspectives très précises de l'histoire de Moïse. Et ensuite, on reviendra au principe humain, qui est important à comprendre en tant que tel. Ça veut dire qu'il y a des moments de transition qui ne peuvent s'opérer que s'il y a cette chose qui ne fait pas partie de la réalité habituelle, que la Torah ici appelle le principe de toute la Torah et qui s'appelle le centre de la vache rousse et qui permet de transformer l'impur en pur, mais celui qui est capable de préparer cela et de faire cela doit être pur, donc il est exceptionnel, il est a priori du cas général, mais par ce fait-là, il se rend impur, mais c'est pas grave, puisque maintenant il peut se purifier de nouveau. Mais vous avez compris qu'il faut un cas particulier. C'est pourquoi énormément de textes désignent Moïse comme étant, vous le verrez dans le récit du début du livre de Shmos, qui parle de la naissance de Moïse, en particulier le verset rappelé au Tokito, que Moïse ne faisait pas partie du monde du bien et du mal, il faisait partie du monde du bien, uniquement. Bon, c'est un sujet pour lui-même, l'identité de Moïse, mais. Et donc, Moïse seul est capable de cela. Bon. Et je reviens ensuite au thème de la sortie d'Égypte, mais d'abord le thème très général. Ça veut dire, tant que la mort est là dans le monde, la sainteté n'est pas possible. Et or, toute la Torah a pour objectif de nous mener à la sainteté. Chaque fois que nous faisons une mitzvah, nous pratiquons une mitzvah, la bracha que nous disons, c'est Asher Kideshanu de Mizota, qui nous a sanctifié par tes commandements. Tous les commandements de la Torah, ont pour objectif la sainteté. Et donc, si on est en état d'impureté, on ne peut pas avoir accès à la Torah. Alors, nous allons voir que le Midrash de Sitrachi implique une contestation contre Israël qui prétend qu'il peut avoir sur terre la Torah de sainteté, alors que tout le monde sait très bien que ce n'est pas possible. Et que ce n'est pas possible, pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'impureté, c'est la nature de ce monde-ci, et l'impureté empêche l'accès à la sainteté. Et qu'il y aurait donc c'est pas tellement employé, mais un kérouf, disons, un sortilège, un truc, okay, qui sera s'invente pour dire on va quand même embrayer dans la sainteté avec un principe comme ça incompréhensible que ce qui rend pur l'impur et réciproque. Okay. Alors, tout de suite, le premier assis, si vous avez bien compris ça.
Une question.
Alors, attendez, une minute. Donc, pourquoi c'est rattaché à Moïse? Eh bien, pour deux raisons essentielles. D'abord, parce que c'est la situation de la sortie d'Égypte. Israël est dans l'impureté. Le Midrash est très précis. Il y a 50 portes de l'impureté. Certains d'entre vous ont utilisé ça déjà. Il y a 50 portes de l'impureté. Israël était tombé dans la 49e porte de l'impureté. S'il était rentré dans la 50e, personne n'aurait pu le faire sortir. Alors Moïse les a fait sortir de la 49e porte de l'impureté. Et c'est Moïse qui est celui qui peut faire sortir Israël de l'impureté à la pureté. Et c'est Moïse qui est celui qui peut donner la Torah à Israël. Oui, comme c'est, donc quoi c'est corollaire. C'est important de retrouver, à propos de ce thème aussi, les deux fonctions de Moïse par rapport à Israël. La fonction historique de la sortie d'Égypte et d'autre part la fonction prophétique de la révélation de la Torah. Dans les deux cas, ça ne peut être qu'un être exceptionnel par rapport à l'état du peuple dont il s'agit pour que la Torah puisse être sur terre et puisse être pratiquée. Je pense que c'est ce que je vous en
anglais.
Alors,
vous parlez de Moïse, mais je vois ici qu'il y a le Kohen Gadol qui intervient, il y a celui qui rassemble les cendres, celui qui le brûle, ou le Moïse.
Oui, au début du deuxième verset, répondant verset. Zotru Kadatora Shetila Shememor, Daber El Ben Israël, Veikru Elecha. Et vous verrez les commentaires sur ce Elecha. Et ils prendront pour toi, Moïse. Alors, bien évidemment, il y a énormément de textes avant. C'est-à-dire, avant que les Kohanim commencent à fonctionner comme Kohanim, c'est Moïse qui était le grand prêtre qui a purifié les Kohanim. Et par conséquent, il y a déjà, grâce à Moïse, des Kohanim purifiés. Donc, on peut envoyer là. Ça s'appelle d'ailleurs, dans le langage de la Torah, Shiva qui est né à Milui. Les 7 jours pendant lesquels les Kohanim ont fait des, comment on appelle ça en français, des Milui. Non, une période de
guerre.
C'est pas la guerre. Il y a un mot dans le vocabulaire militaire, mais il y a si longtemps que j'ai fait la guerre, vous avez dit. Non, c'est pas ça. Mais là, comment on dit? C'est des exercices.
Des manœuvres.
Non, il y a un mot qui m'a pas fait. Vous avez compris l'idée. C'est-à-dire, quand on est en exercice, je ne sais pas quoi, on fait des exercices, pas la guerre vraiment, non? Pacifique que ça, non, enfin, vous avez compris l'idée. Et alors, on a gardé le même mot dans le langage militaire, émiloui. Apprentissage. Okay. Et alors, pendant ces 7 jours, avant l'inauguration du culte du tabernacle, c'est Moïse lui-même qui a joué le rôle de Kohen Gadol. Donc on retrouve la réponse à cette question. Alors tout de suite, nous allons prendre le premier rashi sur la paracha, sur notre verset. Okay, vous l'avez en bas de la page, au chapitre 19. Okay. Alors, ce rashi est la chose que cite rashi, je vais expliquer l'expression Zotruka Tatora. Alors je dis, les filles, parce que chez Asatan, le Satan, les Umota Olam et les nations du monde, Monim et Israël contestent Israël, le mar en disant, qu'est-ce que c'est que cette mitzvah, ou Mata'an Mishba, quel sens s'appelle, les Fichar, c'est pourquoi, Katavar Huka, c'est bien Katav, oui, Katavar, c'est pourquoi la Torah a employé le mot de Huka pour elle. Zeraim il est fanaï, c'est une décision de ma part, en le Kareshut le Ari Racharea, tu n'as pas le droit de. Non, c'est pas de la méditer. Le Harer. Hein? Le Harer, non, ça veut dire de. Je cherche un autre outil, de ressigner le Harer, d'avoir des idées rondes. Et alors, rendez pour ça. Vous avez compris l'idée, ça suffit. Le Harer, ça veut dire avoir des. J'en pense pas moins. C'est ça que je veux dire, héros. Hein? J'ai compris l'idée. Oui, même pas des ressentiments. Oui, mais contre. Alors regardez bien, ce texte que cite Rashi, ça, le fait que c'est Xéra, décision imposée, que tu n'as pas discuté, ça c'est Israël qui doit dire au Goïm et au Satan. Pas pour lui. Okay. C'est-à-dire, jamais Israël n'arrive à expliquer cela Wolverine en satin. C'est une espèce de formidable procédé d'espérance qui fait qu'en dépit de tout, et bien que nous soyons dans ce rôle amasé dont la loi est la loi de la mort et donc de l'impureté, on va embrayer sur la Torah. Et le thème ici est très important, ça veut dire, nous entendons à travers toutes les civilisations du monde, à travers toute l'histoire de Goïm, cette même formule non dite, on voudrait bien pratiquer la Torah, mais nous savons bien que c'est pas possible. Et en particulier, nous avons là le modèle de la contestation chrétienne contre la Torah du judaïsme qui est très claire. Vous dites que vous pouvez pratiquer la volonté de Dieu, c'est de l'immodestie, c'est de l'orgueil, c'est de l'hypocrisie. En réalité, nous sommes perdus, nous sommes fauteurs, nous sommes impurs, c'est pas possible. Il faut accéder autrement, magiquement. Mais ne racontez pas que vous, les hommes, vous allez pratiquer la loi qui n'est valable que dans un monde où il n'y a pas la mort. Vous avez compris le problème? C'est comme si Israël prétendait, eh bien oui, voilà, nous, qui ne sommes que des hommes, nous allons accepter la loi des anges. Je vous rappelle que quand Dieu a voulu donner la Torah à Moïse, il y a un midrash très clair qui dit les anges se sont opposés. Qu'est-ce que tu as donné ça aux hommes? Pourquoi ça ne les concerne pas? Vous vous rappelez de ça? Alors, je crois que dans l'histoire de la contestation théologique, religieuse, et surtout de la relation d'Israël avec les autres cultures, on perçoit bien ces problèmes. Il y a une accusation de mauvaise foi contre Israël. Vous vous ingéniez à avoir des trucs qui vous permettent de pratiquer sans pratiquer. Vous avez compris que c'est réaccusé. Bon. Alors, c'est pourquoi la Torah dit c'est une choka, et de telle sorte qu'Israël sache que quand on lui dit ça, il dit ah, nous ne pouvons rien, ça nous est imposé. Je vais ramener à Samarie, on n'a pas le droit de l'étudier. Vous avez compris le problème? Alors, ça me permet de préciser de nouveau ce que j'ai dit tout au commencement. C'est, vous voyez, la source par laquelle, de laquelle on se sert habituellement, fautivement, pour dire une choka, c'est une décision disciplinaire et qui n'a pas de sens, c'est cette source-là même qui dit le contraire. C'est bien clair? Bon. C'est-à-dire qu'il y a deux contestations. Le Satan, je réidentifie de nouveau rapidement. C'est-à-dire le Satan intervient toujours quand il y a un doute porté sur sur le tzaddik. Et reprenez comme modèle l'histoire de Job. Job est tzaddik et le Satan pose un doute. Est-ce qu'il est vraiment tzaddik? On va le mettre à l'épreuve. Le Satan ne s'occupe pas des failles, il s'occupe des tzaddikim. Vous remarquez. C'est le contraire de ce qu'on pourrait croire. C'est, parce que j'allais dire les tzaddikim, les réchaïm, on les a déjà, et puis il n'a pas fait. Mais dans le vocabulaire du Midrash, dans le tribunal de Dieu, le Satan, c'est l'accusateur public. C'est-à-dire celui qui est chargé de mettre en évidence quelques doutes que ce soit. Et alors, voilà la mise en doute. Est-ce que vraiment vous êtes capable de cette mutation, transformation de l'impureté à la pureté pour avoir accès à la sainteté? Vous faites semblant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec des sangles d'une vache, avec en mettant un peu d'isop, un peu de terre? Alors, ça c'est la mise en doute du Satan. Elle est Umotarolam. Si le Midrash ne s'est pas borné à dire, ça c'est la contestation du Satan, mais et Umotarolam, c'est que, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons vécu cette contestation. J'ai lu énormément de choses à ce sujet, tant venant des musulmans que venant des chrétiens, surtout des chrétiens d'ailleurs, que les juifs font semblant hypocritement de faire ce qu'ils prétendent faire, de vivre selon la loi de sainteté. Ils savent très bien, comme nous les goïms, je vous parle, que c'est pas possible sur terre,